Vous êtes donc bien à l'écoute des Promesses de l'Aube en ce mercredi 31 janvier. J'ai le plaisir d'avoir en studio Colline et Léna. Bienvenue à toutes les deux. Vous allez être rejointe au téléphone par Caroline. Et donc, Colline Fouquet, tu es la metteuse en scène du spectacle Les Trois Maria qui se jouera au Riche Clair dès mercredi prochain.
C'est ça, metteuse en scène et comédienne.
Et comédienne. Et inspiratrice aussi, je pense.
Initiatrice, ouais, c'est ça.
Initiatrice du morceau. Et Léna, tu es la responsable presse, je pense, communication du Théâtre des Riches Clairs.
Oui, exactement.
Et tu avais déjà accompagné le mois dernier, je pense.
Oui, tout à fait.
Oui, il y a deux mois déjà. Il y a deux jours.
Peut-être
deux mois. En décembre, ouais. Voilà, pour parler donc des spectacles qui se jouent au Riche Clair. Il y a toujours deux spectacles qui se jouent en même temps. C'est régulier que...
La plupart du temps, oui. Ça arrive de temps en temps qu'on joue que dans une seule salle et la deuxième est utilisée pour des résidences de création. Et là, on a la chance d'avoir deux spectacles comme en décembre. C'est trop bien.
Et avant d'appeler Caroline Taillet au téléphone, je propose d'écouter un morceau que Colline Fouquet, tu nous as proposé.
Oui.
Je ne sais pas si tu veux l'introduire maintenant ou après.
Oui, c'est des trouvailles parallèles à la recherche que j'ai menée autour du projet Les Trois Maria. Et donc, José Carlos Schwartz est le plus grand poète et musicien de la Guinée-Bissau du XXe siècle. Il n'est pas forcément très connu, pourtant sa musique est très belle et il a participé à l'indépendance de la Guinée-Bissau qui était sous l'emprise de la dictature salazariste. Et ces guerres-là d'indépendance ont été très longues et il a chanté pour l'indépendance de son pays. Voilà.
Eh bien, on écoute ça donc et c'est le morceau « Na Colonia ».
Oui.
Que llora, tu mal amor.
Voilà, on écoutait en tout cas le début de cette très belle chanson, belle découverte, Na Colonia, José Carlos Schwartz de Guinée-Bissau. Et nous sommes, a priori, si tout fonctionne bien, en ligne avec Caroline Taillet. Caroline, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je suis là. Bonjour tout le monde.
Voilà. Et vous, en studio, est-ce que vous entendez bien, Caroline ?
Oui, bonjour Caroline.
Super, la communication est donc bien faite. Caroline, merci d'avoir accepté aussi d'être en communication téléphonique pour cet entretien. Donc, si on vous appelle, c'est parce que vous êtes l'une des trois initiatrices comédiennes du spectacle Orgasme. Et donc, vous portez ce projet avec les autres membres du Canine Collective, Violette Deleu et Léon François. Bien, dites-nous en plus sur ce collectif et aussi les projets que vous avez déjà portés ensemble et celui-ci, Orgasme, donc, qui se jouera tout comme les trois Maria au Théâtre des Riches-Claires dès la semaine prochaine.
Oui, eh bien notre collectif, on l'a fondé quand on est sorti de l'IAD. Donc Léon, Violette et moi, on était dans la même promotion de l'IAD. On a sorti en 2014 et on a fondé ce collectif avec toute notre promotion. Donc on est 11 comédiens à travailler ensemble. Et l'idée de ce collectif, c'est de faire parfois des spectacles à 11. Il y en a notamment un, Régis, qu'on a également joué au Riche-Claire, qui tourne encore cette année, où on est tout le collectif. Et puis, il y a parfois 2, 3, 4 membres du collectif qui font des spectacles, comme par exemple La Théorie du Y, qui était le premier spectacle que moi j'avais écrit et mis en scène et dans lequel jouaient également Léon et Violette qui sont avec moi sur scène dans Orgasme et ainsi que 2 autres comédiens. C'était à l'époque un spectacle qui traitait de la bisexualité qu'on a beaucoup joué, qu'on a joué aussi au Riche-Claire et qui a tourné pendant 7 ans. Et là, on s'est retrouvés pour Orgasme, toutes les trois, autour de notre envie de parler du plaisir féminin. Et donc, c'est une création qui a germé dans nos têtes il y a 4 ans déjà maintenant, où on s'est retrouvés parce qu'en plus d'être collègues et de jouer ensemble, de faire des spectacles ensemble, on est aussi amis. Et on s'est retrouvés à discuter de cette question-là et toutes les trois à se rendre compte que finalement, on n'osait pas se dire toutes les choses, qu'on ne s'était pas dit toutes les choses, que c'était un sujet qui restait malgré le fait qu'on pourrait croire, et c'est le cas bien sûr, que la parole autour de ce sujet-là évolue pas mal, qu'il y avait encore des tabous entre nous et entre tout le monde. Et donc on s'est dit, on va aller interviewer d'autres femmes pour leur demander leur expérience, et c'est parti de là. Donc c'est vraiment parti d'interviews, de témoignages, parfois de femmes seules, parfois de groupes de parole, pour leur demander leur expérience par rapport au plaisir, par rapport à l'orgasme, par rapport à qu'est-ce qui les amenait ou pas à l'orgasme. Et puis on a brassé un petit peu des thématiques plus larges, même s'il y a tellement de choses à dire par rapport à la honte, par rapport à la masturbation, par rapport aux pratiques, enfin, beaucoup de choses. Et on s'est retrouvés à créer ce spectacle où on avait envie de retransmettre des témoignages, mais pas seulement. On avait aussi envie de montrer des choses, de les suggérer, d'utiliser de la poésie. Et donc assez rapidement est venue l'idée de la marionnette. Et donc notre personnage principal, c'est une marionnette qui réalise un jour qu'elle n'a jamais eu d'orgasme et qui part en quête du plaisir, ou plutôt qui hérite d'un bungalow un peu mystérieux dans un camping en Flandre de sa grande-tante. Et donc voilà, il y a toute une histoire où on suit une marionnette et à laquelle on a intégré plein d'extraits des témoignages qu'on a recueillis auprès des femmes.
Et justement, le fait d'utiliser cette marionnette, ça permet justement de mettre cette distance aussi face par rapport à cette réflexion, un peu comme vous l'avez dit, alors qu'on est submergé d'informations sur la sexualité, sur les genres, est-ce que l'utilisation de cette marionnette permet d'en parler beaucoup plus librement, justement, de mettre un peu de distance par rapport à vos propres réflexions ou expériences.
Tout à fait, parce que en plus nous on rejoue certains extraits des interviews avec des masques qui ont été créés par notre costumière pour ça, mais les mots qu'on dit, même s'ils sont derrière un masque, sont assez directs, même si il y a rien de choquant, il y a rien de vulgaire, mais on dit les choses et c'est important. D'ailleurs, c'est pour ça, je me permets une petite digression, qu'on a choisi d'appeler le spectacle Orgasme et qu'on est fiers de ce titre, même s'il peut faire peur, notamment aux écoles, parce que pour nous, on a envie de, ça s'adresse également aux ados, au cinquième et au réto, et il y a beaucoup de réticence de la part des profs, même si on a travaillé notamment avec Léry Claire autour d'un solide accompagnement pédagogique. On va en classe. Enfin, voilà. Pour nous, c'est très important d'en parler déjà aux ados. Mais le titre fait peur, mais on avait envie de le garder parce que c'est pas un gros mot, un orgasme. Et voilà, c'est quelque chose de beau et c'est pas sale. Et donc, je disais donc que les personnages des interviews disent des choses assez claires. Alors que la marionnette, elle, eh bien, elle permet de décaler et en effet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus onirique, poétique. Et puis, on est aussi dans le rapport au corps, au toucher, au plaisir. Disons que nous, on avait envie de montrer certaines choses sur scène, mais nous, on n'avait pas envie, par exemple, de se masturber sur scène avec nos corps de femmes. Il y a quelque chose de la distance qui est nécessaire. Et avec la marionnette, ben, non seulement on met à distance parce que c'est pas notre propre corps, mais en plus, elle peut faire plein de choses que nous, on peut pas faire. Et voilà, on peut montrer plein de choses qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus poétiques, à notre sens en tout cas, via la marionnette. Les marionnettes même, parce qu'il y en a plusieurs. Et la marionnette principale, aussi la particularité, c'est qu'on est trois comédiennes sur le plateau et on la manipule parfois une d'entre nous, parfois deux, parfois trois. Voilà, en fonction des scènes. Et on change tout et on manipule toute la marionnette. Donc, je crois que ça, c'est assez intéressant à voir aussi.
Et je lisais ce matin, en faisant ma revue de presse, une étude qui a été publiée aux États-Unis par le Financial Times, enfin, peu importe, mais qui indiquait que les jeunes n'étaient pas aussi déconstruits, comme on dit actuellement, qu'on le pensait, qu'il y avait surtout un gap, un gouffre entre les garçons et les filles sur cette déconstruction, en fait, et que les jeunes filles étaient beaucoup plus émancipées, enfin déconstruites par rapport à ces thématiques de sexualité que les garçons, et qui étaient beaucoup plus traditionnelles. Et donc, est-ce que vous avez pu, vous, dans la réflexion sur ce spectacle, être confrontée aussi à ça, que les jeunes filles ou les femmes étaient plus enclines à parler de ces questions-là et qu'il y avait plus de réticence aussi ou une réflexion plus traditionnaliste, entre guillemets, chez les garçons. Est-ce que vous vous êtes concentrée juste sur la parole des femmes, bien sûr?
Alors, oui, on a interviewé... avant tout des femmes. Au début, on voulait peut-être aussi interviewer des hommes, puis on s'est dit qu'il y avait déjà pour avoir tout un panel de femmes de milieux différents, de générations différentes, enfin d'origines différentes, on avait déjà énormément de travail, et donc et puis on avait envie avant tout de donner la voix aux femmes, parce que le plaisir des femmes a été évidemment beaucoup nié et beaucoup moins important que le plaisir des hommes, et donc c'était à ça qu'on voulait donner de la place. Donc pour créer le spectacle, on s'est intéressé avant tout aux femmes. Après, quand vous parlez des jeunes, on a déjà eu l'occasion de jouer plusieurs fois, comme je le disais tout à l'heure, pour des écoles, et à chaque fois on fait une animation en classe ou un bord de scène, comme on dit, après le spectacle, pour discuter avec elles et avec eux. Et on avait pas peur, mais on se disait, bah, la première, c'était à Waterloo, la première représentation scolaire qu'on a fait, ils étaient 300 ou 400, dont beaucoup de jeunes garçons, et voilà, on parle quand même de choses assez intimes. Et en fait, aux questions-réponses, c'était que les garçons qui posaient des questions presque. Mmh. On sentait qu'ils avaient envie d'apprendre des choses, et ça nous fait plaisir aussi, parce qu'évidemment, le but du spectacle, même si c'est de porter la parole des femmes, ce n'est pas de s'adresser qu'aux femmes, c'est de s'adresser à tous et aux hommes, ou en tout cas ceux que le plaisir des femmes intéresse, et aux jeunes garçons aussi. Et donc, même si on ne blâme pas non plus les hommes ou les garçons dans le fait que les femmes ont moins de plaisir, parce qu'en fait on part de ce constat-là aussi. Notre marionnette qui n'a jamais eu d'orgasme, on a choisi ce postulat-là parce qu'en fait dans beaucoup de témoignages des femmes qu'on a rencontrées, beaucoup n'ont jamais eu d'orgasme, ou très tard, ou pensaient qu'elles n'étaient pas normales parce qu'elles n'en avaient pas de telle manière ou telle manière. Et c'est un peu ça le message de notre spectacle, et qu'on veut porter aussi le plus tôt possible aux jeunes garçons et aux jeunes filles, sans les inciter, mais en leur apprenant des choses, parce qu'en effet, peut-être que les filles sont plus déconstruites parce qu'elles vont plus vers des contenus qui les intéressent dans ce sens-là, et peut-être que les garçons, eux restent plutôt éduqués par le porno et des choses comme ça qui, en effet, mènent moins, je pense, à une sexualité épanouie par la suite.
Oui, parce que j'imagine que c'est pas très épanouissant non plus des deux côtés. Enfin, que l'injonction de rester dans son rôle est forte aussi. Et effectivement, il y a plus un mouvement justement de libération et de réflexion du côté des femmes et les hommes ont tendance à être plutôt réfractaires à pouvoir aussi réfléchir à d'autres modes d'être. Ou, mais ici, comment est-ce que vous avez vu dans les entretiens aussi une différence de génération chez les femmes entre justement cette question de l'orgasme, parce que souvent on pense que c'est les femmes plus âgées qui effectivement n'ont jamais ont été éduquées d'une telle manière et que les jeunes ne sont plus là-dedans justement.
Et oui, eh bien, on a été assez étonnés en fait aussi d'entendre pas mal de témoignages de femmes de notre génération. Donc nous, on a entre 30 et 35 ans qui non plus n'avaient pas jamais eu d'orgasme, si parfois, ou qui l'avaient eu tard, ou qui n'en parlaient pas avec leur partenaire. Donc je dirais que je pense évidemment, et puis ça j'ai pu le voir aussi avec notre dernier spectacle qui parlait des questions d'orientation sexuelle, qu'il y a une certaine libération de la parole autour de ces sujets-là, évidemment, une évolution, mais dans ce qui se passe concrètement, ça reste toujours compliqué. Et ce qu'on a voulu mettre vraiment en avant dans ce spectacle, c'est pour ça qu'on a choisi l'histoire d'une grande tante qui lègue un bungalow un peu magique à sa petite nièce, c'est la question de la transmission. Ce qu'on veut avant tout, c'est ouvrir la parole sur ces sujets-là et en parler, que ce soit entre générations ou entre personnes de la même génération. Mais on s'est rendu compte aussi qu'on n'en parlait pas spécialement avec nos mères, avec nos grands-mères, avec nos filles. Alors, est-ce que ça doit être le cas? Est-ce que la parole doit être dans ce cadre-là? Peut-être pas forcément, mais il y a des choses qui devraient se transmettre, qui se transmettent peut-être pas toujours. Et puis, on s'est rendu compte que parfois, entre copines ou entre amis, on dit pas tout. On dit oui, moi, ça va super. Mais est-ce qu'on arrive à dire vraiment les choses? Voilà.
Et Léna et Colline qui est en studio, je pense que en tout cas Léna, tu as vu ce spectacle. Colline, je ne sais pas.
Non, pas encore.
Mais est-ce que tout ce que Caroline dit, est-ce que ça résonne aussi peut-être avec le spectacle Les Trois Maria et Léna, comment toi qui peux voir aussi la réception du spectacle, comment ça a résonné aussi pour toi?
Alors là, je vais parler vraiment en tant que spectatrice. Moi, j'ai été bluffée par Orgasme quand je l'ai découvert l'année passée. Tout ce que Caroline dit là en interview est vrai. Enfin, il n'y a pas de mensonge. Je retrouve vraiment tous les éléments que moi j'ai découvert comme spectatrice. On rentre dans un univers complètement magique, complètement onirique, avec des accents presque cinématographiques et radiophoniques à certains moments. Le jeu des comédiennes Caroline, Violette et Léon est juste subjugant. On rentre dans ce monde, on découvre Lisa et ce que Lisa découvre en même temps. Et on accompagne sa réflexion avec la nôtre. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. À travers aussi tous ces témoignages qui sont tantôt interprétés vraiment par Caroline, Violette et Léon. Parfois, ce sont les vrais extraits de témoignages. Enfin, voilà, c'est vraiment bluffant et c'est une expérience en tant que public qui est assez à la fois agréable et confrontante, je dirais. Et ce que je trouve très chouette au Riche Claire, ce mois-ci en février, c'est d'avoir en parallèle Orgasme et Les Trois Marias, parce qu'il y a vraiment des points de rencontre entre les deux thématiques, les deux spectacles, et en même temps, c'est deux propos complètement différents. Et ce que j'aime bien dire, par exemple, dans mes communiqués de presse, qui m'a toujours un peu amusée, c'est que d'un côté, on a Orgasme, où c'est un personnage principal interprété par trois femmes, de l'autre côté, on a Les Trois Marias, qui est interprété par une seule femme. Enfin voilà, j'aime bien trouver un peu des anecdotes. Les Trois Mariages, je l'ai pas vu, donc je peux pas complètement faire le parallèle, mais donc Colline qui a entendu pourra beaucoup mieux en parler, mais voilà.
Justement, je lisais dans le dossier de presse, enfin Colline, vous allez expliquer aussi d'où vient Les Trois Marias et donc de ce livre que vous avez découvert lors d'un voyage au Portugal, si je ne me trompe pas, qui est un des piliers du féminisme portugais aussi, qui est encore vraiment un document de référence, on va dire, qui a été beaucoup retravaillé, aussi interprété, commenté, et qui est une suite, en fait, les nouvelles lettres portugaises qui font écho aux lettres de la religieuse portugaise qui sont d'un autre temps. Et donc, comment, justement, dans le dossier de presse, à propos des trois Marias, ils disent à L3, elles rassemblent les trois piliers nécessaires à une révolution. L'une lutte pour la liberté des corps, une autre ramène constamment la question du sens, et la troisième appelle à la poésie. J'ai l'impression que ça aurait pu s'adapter aussi à ce que Caroline vient de nous dire à propos du spectacle Orgasme. Mais racontez-nous un peu la genèse de votre projet.
La genèse du projet, c'est une peine d'amour, un chagrin amoureux et la difficulté de s'en relever ou de trouver les outils pour comprendre comment faire face à cette vague d'émotions qui peut nous accabler, et le fait qu'on me mette dans les mains les lettres de la religieuse portugaise en me disant « Tiens, ça me fait penser à toi, tu pourrais peut-être travailler sur cette figure féminine ». Donc les lettres de la religieuse portugaise, c'est 5 lettres d'amour qu'une religieuse aurait écrites au XVIIe siècle à un amant, mais un amant sachant qu'elle était religieuse dans un couvent, donc on peut se poser la question comment ça se fait que cet homme a pu s'introduire dans le couvent et comment cette histoire d'amour a pu avoir lieu. Et quand on découvre ces lettres, c'est vrai qu'on y trouve une grande intensité et elles sont très charnelles et elles sont très belles et en même temps elles sont assez pathétiques parce qu'elles décrivent bien aussi tout l'excès de la passion amoureuse et elles me plaisent, mais en même temps je me dis non, mais il est hors de question que je travaille sur ces textes-là, et je continue mes recherches, et c'est un bouquiniste à Bruxelles qui me parle des nouvelles lettres portugaises en me disant ah mais tiens, intéressez-vous aux trois Marias, trois écrivaines portugaises qui dans les années 70 ont pris pour modèle cette religieuse et ce livre pour questionner en fait la condition féminine et la passion amoureuse. Et donc je réussis à obtenir ce livre-là qui n'est plus édité en français et effectivement je m'y retrouve d'une certaine manière parce qu'elles sont beaucoup plus subversives et elles remettent en cause en fait la position de cette femme.
Ah, excusez-moi, c'est Caroline qui dit qu'elle nous entend plus, donc qu'elle va raccrocher, mais peut-être on peut continuer. excusez-moi, du coup, c'est parce que je vois apparaître. La question aussi, c'est que ce livre, il est sorti autour de la Révolution portugaise aussi. Et donc,
oui, c'est ça.
C'est quelque chose, quand on parle de la Révolution des œillets, on n'a pas en premier lieu le lien avec une révolution un peu féministe, un peu une mobilisation des femmes. Et donc, c'est, en tout cas ici en Belgique, hein, je pense qu'au Portugal, c'est plus le cas. Mais donc, comment ça résonne aussi
Oui, tout à fait. C'est un livre en fait, qui a fait énormément parler de lui au Portugal parce que elles ont réussi à le publier à la fin de la dictature portugaise où il régnait une énorme censure et où les femmes étaient vraiment condamnées à un rôle de fée du logis et de femmes à la maison et quand elles ont réussi à le publier, il y a eu un procès qui a duré 2 ans et le livre a été interdit. Et pour essayer de le sauver, les trois autrices ont envoyé un manuscrit aux féministes de France, donc à Marguerite Duras, à Simone de Beauvoir et à toutes. À Delphine Seyrig, au mouvement de libération des femmes, en leur disant « Nous vous envoyons notre livre à vous les femmes, car nous ne pouvons plus rien faire. » Et donc du coup, les féministes de France le traduisent et trouvent que c'est un chef-d'œuvre interdit. Elles y trouvent une puissance littéraire et d'émancipation très forte. Et du coup, elles réussissent à le publier et elles en font la promotion. Il va y avoir une soirée, par exemple, la première soirée de la femme. Delphine Seyrig va lire des extraits de cette œuvre. Et petit à petit, ça permet de ça rend visible en fait le procès de ces trois femmes au Portugal. Et pendant chaque jour de procès, parce que le procès durera 2 ans, chaque jour de procès dans plusieurs villes de France, mais d'Europe, des États-Unis, des femmes se mobilisent pour soutenir les trois Maria. Et c'est comme ça en fait que leur histoire va se faire connaître à l'international. Et en fait, il y a un des derniers jours du procès, la condamnation devait tomber, et c'était le jour du 24 avril, le jour de la révolution des œillets. Donc elles ont été acquittées finalement de leur procès grâce à la révolution.
C'est une belle histoire. Oui. Et comment justement vous vous êtes dit, en ayant ce livre en main, comment a germé le processus du spectacle en tant que tel, comment vous vous êtes dit que ça allait pouvoir être transformé en spectacle justement et en seul en scène?
Il y avait en fait, il y a une... Comme ces trois femmes en fait luttaient vraiment contre la censure et contre l'interdiction en fait de parler et de penser finalement, parce que c'était une dictature très très conservatrice et très autoritaire et très pernicieuse qui s'infiltrait même dans l'intimité des gens. Il y a une puissance littéraire et une puissance du dire, une nécessité du dire et quelque chose d'assez organique finalement dans certains de leurs textes où j'avais l'intuition en fait qu'ils pouvaient être portés à la scène. Et donc c'est une œuvre quand même qui rassemble 120 textes. Donc j'y suis allée, j'ai arpenté le livre et j'ai fait des sélections, les textes qui me touchaient le plus, qui se résonnaient le plus en moi, que j'avais envie de partager. Et qui venait répondre aussi finalement à la question qui m'habitait, comment se relever de la peine amoureuse, c'est quoi l'amour, c'est quoi la passion et c'est quoi le désir. Et c'est là où peut-être le travail que j'ai mené rejoint aussi certaines questions de l'équipe de Canine et de ce que nous racontait Caroline précédemment.
Et ce spectacle, vous ne l'avez pas fait toute seule, vous vous êtes entourée, il y a 4 personnes, je pense, une équipe de 4, enfin...
Oui, c'est ça.
Et donc, comment ça a germé? Parce que je pense que vous mettez en lien aussi du texte, de la vidéo...
En fait, l'histoire de ce livre m'a tellement passionnée, autant que la matière littéraire qu'il contient, que je me suis mise à écrire un texte finalement pour raconter en même temps à la fois l'histoire du livre, à la fois peut-être mon histoire à travers ce livre et l'histoire de ces trois femmes. Et très vite, j'ai trouvé des complices autour de cette écriture, et notamment Laetitia Janouin, qui est autrice, metteuse en scène et comédienne. Et qui a lu différentes versions, et progressivement on a décidé de travailler ensemble et qu'elle me mette en scène. Et aussi il y avait Joris van den Hout qui est scénographe et à qui j'ai fait appel assez rapidement parce que moi dans ce travail là de projection de spectacle, j'avais beaucoup d'images me venaient, beaucoup de désirs d'espace. Il me fallait un interlocuteur finalement avec qui partager ces idées-là. Et Joris s'est révélé être une personne précieuse avec qui on a commencé à entamer un dialogue autour de ce projet.
Quel est le processus? Moi, je suis toujours intéressée de savoir comment ça germe entre le moment où on découvre un texte et le moment où on se retrouve le 7 février, là, sur scène.
Au plateau, ouais. Il y a déjà eu beaucoup de discussions autour du texte ou des différentes versions de texte que j'amenais, où on réfléchissait ensemble à une dramaturgie possible. Et c'est là où Laetitia et Joris sont intervenu aussi, comment finalement on peut essayer de créer un mouvement à l'intérieur du spectacle qui puisse raconter le mouvement de ces trois femmes qui finalement décident de se rassembler, d'écrire pour finalement poser un acte révolutionnaire pour elles-mêmes, mais aussi pour la condition féminine et aussi par rapport au pouvoir qu'elle subissait, la dictature. Mmh. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en place dans le spectacle.
Et est-ce que vous avez aussi réfléchi, parce que là, ça va faire 50 ans, c'est les 50 ans de la révolution des œillets cette année. Donc, est-ce que vous avez été en lien, justement, peut-être avec d'autres femmes aussi qui peut-être au Portugal ou ailleurs dans le monde, prenaient ce livre et le faisaient revivre?
Ah, malheureusement, ça, j'ai pas su le faire, non. Par contre, j'ai rencontré la dernière autrice vivante, qui s'appelle Maria Teresa Horta, qui a à peu près 80, enfin entre 80 et 90, je ne sais pas exactement, et qui est une femme encore très très rayonnante et vivante et passionnée finalement, et qui prend un grand plaisir à nous raconter son travail et surtout cette aventure-là avec Maria Isabel Barreno et Maria Velo da Costa. Et donc elles m'ont dit en fait qu'il y a eu effectivement plusieurs adaptations de leur œuvre, et elle m'a accordé les droits finalement. Je pense qu'elle est très heureuse en fait de savoir que ce livre-là continue à vivre et à interpeller et à toucher en fait des femmes d'autres générations que la leur.
Et effectivement, il est plus disponible en français.
Non, mais on le trouve malheureusement sur Amazon. Oui. Mais voilà. On le trouve encore en...
Alors qu'en portugais, il continue à être
oui, tout à fait.
Réédité avec mais des commentaires.
Mais je pense qu'en fait, ouais, en fait finalement, c'est les éditions du Seuil qui l'ont fait. Je crois que ça, si elle n'a pas été rééditée, c'est que ça appartient vraiment à cette histoire très singulière de ce livre qu'on envoie clandestinement à des femmes elles-mêmes en lutte en France et qui d'un coup le découvrent, le font traduire par des Brésiliennes exilées qui elles-mêmes fuyaient une autre dictature au Brésil et qui d'un coup trouve dans ce livre-là une histoire si incroyable qu'elle décide de le publier dans l'urgence. En fait, je pense que il a vraiment été traduit et publié dans une forme d'urgence en fait, le livre en français, la version française.
Et parce que les lettres de la religieuse portugaise, en réalité, ça n'a rien de portugais.
Ça n'a strictement rien de portugais, c'est ça toute la...
Et du coup, comment ces femmes portugaises se sont dit, ah ben on va s'inspirer, enfin on
Je
va...
Je pense qu'elles la prennent comme un alibi. Il fallait vraiment qu'elles rusent la censure. Elles ne pouvaient pas attaquer de front, en fait, le sujet qu'elles voulaient attaquer, qui était finalement... peut-être ce que racontait Caroline tout à l'heure, en fait, la femme, la liberté du corps, les droits, enfin. Et en tout cas, elle voulait dénoncer l'absence totale des droits des femmes à cette période-là. Et le fait aussi la dépossession du corps, la dépossession de la parole. Mais elle ne pouvait pas attaquer de front leur sujet, elle ne voulait surtout pas écrire un manifeste politique, et donc elle voulait rester dans la littérature, et comme elle devait écrire à trois et qu'elle voulait pas écrire un roman à six mains, elles se sont posé la question comment on peut amorcer un travail ensemble, et je pense qu'elles étaient c'était des joueuses, et donc elles ont inventé une méthode plutôt joyeuse, et elles se sont dit elles ont décidé de prendre ce personnage là comme point de départ qu'elles questionnent. La question, je ne me souviens plus exactement.
Ce n'était pas vraiment une question, c'était comment elles en sont venues justement prendre...
Oui, et en fait, finalement, ce que représente la religieuse, je ne sais pas si elles le condamnent ou elles ne veulent pas forcément le tuer, mais en tout cas, elles veulent le remettre en cause. Donc, c'était un bon support, en fait, pour questionner l'identité féminine, la condition féminine. Parce que finalement, la religieuse, elle représente tous les enfermements de la femme.
Et qui étaient ceux auxquels étaient confrontées les femmes sous le régime de Salazar,
ouais,
sans aucun doute.
C'est en parallèle, oui.
Et justement, cette religion qui était très prégnante aussi dans la société portugaise.
Oui. En fait, moi, ce qui m'a aussi séduite, c'est que finalement, en lisant les lettres de la religieuse portugaise, je m'y retrouve finalement, je l'ai fait lire à d'autres amis et tout le monde s'y retrouve un peu parce qu'on a toutes vécu des amours passionnés et passionnels et des peines aussi. Et elles sont aussi très intenses par le désir en fait qu'elles racontent et qu'elles décrivent ces lettres. Et c'est là aussi où on s'y retrouve. Et en même temps, elles sont pathétiques et on a envie de sortir en fait de ce carcan-là. Et les trois Marias, elles étaient dans cette position aussi, finalement. Comment se libérer, comment continuer à aimer, comment continuer à vibrer de passion tout en étant maîtresse, finalement, peut-être, de ce sentiment et de cette expérience.
C'est une vraie question, effectivement. C'est un peu celle posée par Orgasme aussi. C'est comment aimer dans une relation amoureuse, sexuelle, en restant maître de soi, en ne se laissant pas dominer, mais en étant en accord.
Et finalement, nos sociétés, là, enfin, en tout cas, le catholicisme a quand même eu un impact très fort sur la dépossession du corps et dans la méconnaissance, finalement, peut-être, de notre corps et dans le fait d'en faire quelque chose d'interdit, de mauvais. Il y a toute une reconstruction, finalement.
Et donc, c'est les premières représentations la semaine prochaine. Oui, comment vous anticipez ça? Avec quel sentiment vous...
Avec beaucoup de joie. Je pense que le spectacle va continuer à se créer aussi, enfin en tout cas à s'installer au fur et à mesure des représentations. Mais c'est une grande joie pour moi d'enfin pouvoir présenter ce travail-là et ce qui m'a animée finalement à travers ces deux œuvres.
Et est-ce que après donc c'est du 7 au 23?
Oui.
Les deux spectacles ont les mêmes dates de représentation, je pense.
Oui, exactement. À une subtilité près, donc c'est toujours le mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi à 19h, jeudi, vendredi à 20h30. Et alors, chaque spectacle joue un lundi sur les trois semaines de représentation. Colline pour les trois Marias, c'est le 12. Et Orgasme, c'est le 19. Et la particularité du lundi, c'est que c'est 6 €, prix unique pour tout le monde. Mais sinon, c'est à chaque fois les mêmes dates. Et Orgasme a également une matinée, enfin ce qu'on appelle une matinée, c'est à 14h. C'est pour l'élève tard, non, c'est pour les scolaires. Enfin, c'est tout public, mais on a beaucoup de scolaires à ce moment-là. Un jeudi sur la représentation, j'ai plus en tête.
Ok. Et vous le prévoyez aussi pour un public plus adolescent, plus jeune adulte?
Oui, j'ai mis à partir de 15 ans. C'est un spectacle où il y aura quand même beaucoup de textes, mais je pense qu'à partir de 15 ans, ce sera... Voilà.
Et c'est vrai qu'au Riche-Claire, vous avez quand même un gros travail éducatif aussi, enfin de lien avec les écoles et les classes. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens, il y a des classes.
Oui, on a Lily qui est notre médiatrice culturelle, qui fait un boulot immense et absolument, elle est passionnée et passionnante, je dois avouer. Ça a été ma maître de stage, je sais de quoi je parle. Mais non, oui, elle fait un travail de fou et certains projets s'y prêtent mieux. De toute façon, pour accueillir du public et un public scolaire ou même associatif, mais les trois Marias et Orgasme, c'est vraiment deux projets où à côté de l'accueil, il y a des vraies possibilités de médiation, de rencontre, d'animation. Et je sais que Lily, et avec Colline et avec les filles du Canine, a fait de nombreuses réunions et vous avez mis sur pied des vraiment chouettes animations. Et donc de nouveau, c'est pas que des scolaires, hein, c'est aussi des animations avec des groupes, en fait, que ce soit des groupes associatifs ou quoi, qui viennent avec leurs assos. Et moi parfois j'aimerais être une petite souris, je dois avouer, pour pouvoir y assister, parce que ça a l'air vraiment passionnant et libérateur.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois d'être venues. Je me réjouis en tout cas de venir voir le spectacle. Donc, le théâtre des Riche-Claires, c'est rue des Riche-Claires.
Absolument.
Et donc, n'hésitez pas à réserver les places sur le site ou... Ouais, est-ce qu'on peut appeler?
Oui, on peut appeler. Vous trouverez le numéro sur Internet.
Voilà, lesricheclaires.be. Merci beaucoup, Colline, d'être venue. Je me réjouis en tout cas de voir le spectacle et je me disais que ça pouvait aussi être... Est-ce qu'il y a d'autres lieux où le spectacle sera joué qui sont déjà prévus?
Là, pour le moment, il n'y a que les 10 représentations au Riche-Claire et... Je vous tiendrai au courant pour les prochaines.
On se tiendra au courant. Oui. Merci beaucoup en tout cas et bonne, je ne sais pas ce qu'on dit dans ces moments-là, oui, pour les représentations. Merci Léna.
Merci
Caroline qui était au téléphone et on va continuer en musique. Et je vais rebrancher les câbles comme il faut pour qu'on écoute Lina, et c'est une portugaise, c'est Fado Camões, et c'est le titre Se de Saudade Morrerei ou Não.
Se de saudade morrerei ou não, meus olhos dirão de minha verdade. Por eles me atrevo a lançar as águas que mostrem as mágoas que nesta alma levo. As águas que em vão me fazem chorar, se elas são do mar, estas da mar são. As minhas mágoas, que se força de águas me leva, eu as levo. Todas me entristecem, todas são salgadas, porém as choradas doces me parecem. Todas me entristecem, todas são salgadas, porém as choradas doces me parecem. As águas que em vão me fazem chorar, se elas são do mar, estas da mar são. Correi doces águas, que se em vós me alegram.